100% d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Bonjour, les bénéficiaires du revenu minimum sont de plus en plus nombreux. En France, les associations alertent aussi sur la hausse de l'aide alimentaire. 45% de repas en plus distribués par le Secours populaire dans les grandes villes, mais aussi les banlieues et le monde rural. La crise du Covid-19 augmente la précarité des plus fragiles, ce sont souvent aussi les moins visibles. Exemple en Suisse avec les travailleurs du sexe. Dans ce pays, la prostitution est légale et encadrée. Mais n'empêche, avec le confinement, les prostituées se sont retrouvées sans revenus du jour au lendemain et extrêmement vulnérables. Le reportage de Jérémy Lanche.
Depuis la mi-mars, les travailleuses du sexe en Suisse ont interdiction de rencontrer leurs clients. C'est le cas de Yumi. Elle est française et elle a dû trouver un moyen de gagner sa vie tout en respectant les nouvelles consignes imposées par les autorités.
Pour pouvoir survivre, forcément j'ai transformé mes activités qui étaient donc physiques et en présentiel par webcam. Bon, en sachant que ça n'a pas rencontré un franc succès, tout simplement parce que moi ce que je propose c'est de la sensualité, de la sexualité, de la présence, de la tendresse, puis que tout ça on peut pas le donner par webcam. Donc j'ai eu suffisamment, on va dire, de vidéos webcam pour pas être en situation de grande précarité. Après, je me réjouis quand même de pouvoir reprendre parce que financièrement, ça commence à être compliqué.
Yumi assure qu'elle n'est pas à plaindre. En Suisse, les travailleuses du sexe peuvent prétendre à des aides pour compenser l'arrêt de leur activité, mais dans les faits, elles sont peu nombreuses à le faire. Pénélope Jacardi travaille à Genève pour l'association d'aide aux travailleuses du sexe Aspasie.
Les femmes qui sont suissesses ou qui ont des titres de séjour et de travail de longue durée ont droit à ces allocations-là. Certaines qui sont ici, qui ont des titres plus précaires, n'ont pas droit à ces aides-là. Donc il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées sans aucune ressource et qui ont vécu parfois des aides que les associations comme Aspasie ou d'autres ont pu leur fournir, mais qui sont malgré tout des aides d'urgence et essentiellement alimentaires. Et certaines ont dû et ont recommencé parfois à travailler uniquement pour pouvoir payer leurs charges, ne pas être expulsés de leur logement, etc.
Et la police suisse n'a pas baissé la garde pendant ce temps-là. À Genève, deux prostituées piégées par des agents se sont même retrouvées en prison pour avoir brisé l'interdiction d'exercer. Et c'est finalement ce retour en arrière qui inquiète les associations. En redevenant illégale à cause du Covid-19, la prostitution en Suisse change de visage. Elle serait plus dangereuse pour les personnes qui choisissent ou qui sont forcées de l'exercer.
Malheureusement, quand on est dans une politique répressive de prohibition du travail du sexe, on arrive à des dérives. Le cas de la France le montre bien, il y a beaucoup plus de violence quand le travail du sexe est interdit. Donc là, quand il l'était, certaines personnes qui se font passer pour des clients mais qui sont en réalité des agresseurs ont profité d'un sentiment d'impunité en se disant qu'effectivement les travailleuses du sexe ne pouvant pas travailler, elles ne pourraient pas être en mesure d'appeler la police si elles avaient un problème et une situation qui les mettait en insécurité.
Un temps envisagé à la fin de l'été, la reprise d'activité pour les travailleuses du sexe a finalement été programmée pour ce samedi. Un soulagement pour Yumi qui espère mettre derrière elle ses problèmes financiers, même s'il en reste bien d'autres.
Urgemment, on avait besoin de reprendre, déjà d'un point de vue donc de la précarité économique, mais en plus d'un point de vue symbolique, c'était très violent pour nous qui sommes déjà stigmatisés, qui sommes déjà à la fois exclus de la société, mais quand même pointés du doigt. C'est pas qu'on est exclus et qu'on nous laisse tranquille, c'est qu'en plus on nous pointe du doigt et que l'image de la putain est quand même très sale. D'un point de vue gouvernemental, on nous disait encore une fois qu'on était différentes et en plus qu'on était plus à risque. Mais ce qui est sûr, c'est que il suffit pas en fait qu'on ait une autorisation. Après, il faut qu'on travaille. Donc pour travailler, il faut qu'il y ait des clients qui viennent nous voir. Comme toute profession libérale, en fait, on propose des services. Mais pour pouvoir vivre, il faut bien qu'il y ait des gens qui aient recours à ces services. Donc c'est pas la fin de la galère, c'est le début de la fin de la galère.
La crainte pour la jeune femme, c'est maintenant celle d'une deuxième vague de la pandémie et un nouveau confinement qui aggraverait un peu plus la situation des travailleuses du sexe déjà en grande fragilité.
J'aime bien travailler. Mais ça dépend des jours. Il y a des jours pour et des jours pour pas travailler.
Avec l'arrêt de pans entiers de l'économie, les intérimaires, les CDD ou encore les auto-entrepreneurs qui ne bénéficient pas de la protection qu'apporte le statut de salarié se sont retrouvés dans la galère. Au point d'accepter toutes les missions possibles, notamment dans la grande distribution, avec le risque d'une plus grande exposition au virus, mais aussi un statut à la limite de la légalité. Lise Verbeck est allée rencontrer certains d'entre eux.
Avec la fermeture des restaurants, beaucoup de livreurs à vélo se sont retrouvés sans mission. Alors les plateformes de livraison, type Deliveroo ou Uber Eats, les ont réorientées vers la grande distribution qui propose de livrer des paniers de courses. Et dès le début du confinement, Jérôme Pimaud, ancien livreur à vélo et cofondateur du collectif des livreurs autonomes de Paris, a alerté sur les risques encourus par les coursiers.
Il fallait essayer d'aller faire ses courses soi-même parce que faire livrer quelque chose par un livreur, c'était lui faire prendre des dizaines de risques. Pendant très longtemps, les livreurs n'ont pas eu accès à des masques ni à du gel hydroalcoolique, alors que bon, les gens chez eux pouvaient aller faire la course avec au moins en se lavant les mains, même si tout le monde n'avait pas de masque. Ils avaient tous chez eux un lavabo, des choses comme ça, pour prendre des précautions, alors que les livreurs non. Rentrer dans un immeuble et en sortir, c'était prendre une dizaine de points de contact différents, des points de contact possiblement infectés, donc ça faisait prendre énormément de risques à des gens qui pouvaient pas se laver les mains, justement, et qui devaient aller d'adresse en adresse une quinzaine de fois par jour.
Étant indépendant, c'est au livreur de se protéger car il est son propre employeur. Certaines plateformes ont envoyé du gel et des masques, mais dans de très faibles proportions, selon le collectif. Jérôme Pimaud a aussi eu des témoignages indirects de personnes travaillant dans les supermarchés, dans la mise en rayon ou en caisse, comme les autres salariés.
Et là, par contre, ça pose un vrai problème. Dans que ce soit chez les plateformes ou chez les magasins, les grandes distributions, il y a une véritable omerta, quoi. Il y a une grosse peur. Quand on est auto-entrepreneur, c'est tellement facile de se faire virer, et non seulement de se faire virer, mais d'être cramé dans tout un tas d'enseignes.
Des enseignes qui ont bien recours à ces auto-entrepreneurs pendant cette crise sanitaire pour pallier le manque de main-d'œuvre, comme le confirme Joby Paper. C'est une plateforme qui fait le lien entre la grande distribution et les étudiants qui cherchent des petits boulots. Ces indépendants font-ils le même travail que les salariés? Non, répond la plateforme. Les travailleurs sont libres de choisir leurs clients et leurs horaires, selon elles, pour une tâche précise, comme par exemple la préparation des commandes pour les drives. Mais pour maître Valérie Batifoy du cabinet Pikowski, il y a un gros doute sur la légalité de ce type de mission, encore plus en période de pandémie.
Pour moi, ça rentre pas dans le statut d'auto-entrepreneur parce que, en réalité, il fait partie d'un service qui est totalement organisé. Il fait partie de l'entreprise comme n'importe quel salarié. Il apporte de rien de particulier à l'entreprise. En réalité, il remplace un salarié qui n'est pas présent pour effectuer des tâches qu'on va lui commander. Donc, pour moi, on n'est pas du tout dans une situation d'auto-entrepreneur. Là, je pense qu'on est plutôt dans une situation avec des personnes qui sont en manque de personnel et qui recours à ce statut. Je pense que c'est vraiment lié à la pandémie. Si jamais ça devait être lié, si demain on devait élargir cette solution de manière continue, là, effectivement, je pense qu'on serait vraiment dans une situation où on se retrouverait avec un employeur qui cherche vraiment à éluder les cotisations sociales.
Certaines enseignes de la grande distribution ont reconnu à nos confrères de Marianne recourir à ces auto-entrepreneurs pendant cette période exceptionnelle, mais dans de faibles proportions d'après elles. Leclerc, le groupe Casino ou encore Carrefour ont tous refusé nos demandes d'interview à ce sujet. La crise sanitaire a aussi fragilisé d'autres secteurs où travaillent les indépendants. Lisa est étudiante et elle fait de l'aide aux devoirs, en passant également via une plateforme spécialisée. Ses missions ont toutes été annulées et son statut ne lui donne droit à rien, même si selon elle, elle fait le même travail qu'un salarié.
On a l'obligation d'arriver à une certaine heure, on a le fait de devoir avoir un planning qu'on choisit pas, alors que quand même dans l'auto-entrepreneuriat, le concept c'est d'avoir une certaine liberté et de choisir soi-même ses horaires et ses jours de travail. Il y a aussi le fait qu'on ait des comptes à rendre. Par contre, on n'a pas la protection que le salariat peut offrir. Ça veut dire que si ils décident qu'ils ont plus besoin de nous pour une raison qu'ils ont même pas à nous expliquer, du coup, on nous dit juste, voilà, ta mission n'est pas reconduite. Et là, on n'a pas d'indemnité chômage, on n'a jamais, moi, toutes les fois où j'ai été malade, jamais une seule fois il y a eu d'indemnité. Enfin, même là, pendant le Covid-19, c'est un peu compliqué, du coup, parce que on nous dit juste, vous n'avez plus de mission.
Elle rencontre actuellement de grosses difficultés financières. Elle n'a pas droit aux aides de l'université car elle n'est pas étudiante salariée. Et c'est la même chose pour les livreurs ou caissiers indépendants qui, en plus, ont pu être contaminés par le virus. Mais cela reste une inconnue. Aucune statistique n'existe à ce sujet.
Autres travailleurs particulièrement précaires, les étrangers, souvent moins regardants sur les conditions de travail. Il y a eu ces ouvriers roumains contaminés au Covid-19 dans un abattoir en Allemagne. Mais en Roumanie, ce n'est pas mieux. Courant mai, des cas de contamination au coronavirus sont apparus parmi des ouvriers sri-lankais, cette fois dans une usine de textile du nord de la Roumanie. Quand travail rime avec exploitation, Les explications de Benjamin Ribouf.
Après la contamination d'un des 40 Sri Lankais le 23 avril, rapidement, trois autres sont touchés. Les autres demandent alors à se mettre en quarantaine. Le patron italien n'est pas d'accord et les menace de leur retirer $30 sur leur salaire par jour de quarantaine. Les Sri Lankais s'arrêtent quand même et apprennent donc pendant leur isolement préventif qu'ils sont licenciés. Mais ce n'est pas tout, car après les 14 jours, on les expulse sans leur laisser le choix. Marianne Raduna est vice-présidente de Geeks for Democracy. Depuis le début de la pandémie, cette ONG livre à domicile des produits de première nécessité aux plus vulnérables. Ils sont également venus en aide à ces ouvriers sri-lankais. Marianne Raduna n'en revient toujours pas de la façon dont ils ont été traités.
Personne ne leur a rien expliqué. La direction de santé publique ne leur a rien dit et ils ont paniqué. La communication est sainte pour ne pas créer de la confusion. Au lieu de ça, une compagnie a été affectée par le préfet pour les transporter et les gendarmes les ont fait rentrer dans le bus pour l'aéroport de force. Même brutalité chez la société de surveillance qui est venue les chercher. Sans parler des chauffeurs du bus qui avaient pour mission de les abandonner à l'aéroport comme des chiens. On se plaint, nous, Roumains, de ce qui nous arrive à l'étranger. Or, on fait pareil ici. On n'a aucun respect pour les gens. C'est désarmant.
Finalement, c'est grâce à l'action des ONG et d'un compatriote vivant en Roumanie de longue date que le sort des Sri Lankais a attiré l'attention de la ministre du Travail. Leur soutien leur ont permis de retrouver du travail, notamment dans la ville de Cluj-Napoca, dans le nord-ouest de la Roumanie, où 6 sociétés se sont déclarées prêtes à les embaucher. Alors qu'elle fait face à une pénurie de main-d'œuvre, la Roumanie fait appel chaque année à 30 000 travailleurs extra-communautaires, la majorité originaire du Vietnam, de Turquie, du Népal et du Sri Lanka.
Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico.
En Espagne, c'est une vidéo sur les réseaux sociaux qui aura fini par les rendre visibles. 200 personnes, des Sénégalais pour la plupart, dormaient dans la rue depuis près d'un mois près de Barcelone, et ce, alors qu'ils travaillent. Au final, c'est grâce à la générosité du footballeur espagnol Keita Balde qu'ils vont enfin pouvoir être logés, Élise Gazangel.
Depuis des semaines, ils sont 200 à dormir dans la rue dans l'indifférence générale. Des migrants venus prêter main forte pour la saison de la cueillette des fruits à Lleida près de Barcelone, car le manque de main-d'œuvre dû au Covid-19 a attiré ces étrangers avec ou sans papiers qui résident en Espagne, mais presque personne n'a accepté de les loger. Après la publication d'une vidéo dénonçant ces conditions insalubres, la mairie a bien annoncé la mise en place tardive de lits de camp spartiates dans un gymnase de la ville. Mais le logement est qualifié d'indigne par certains de ces travailleurs qui essuient en plus le mécontentement des voisins s'opposant à ce centre provisoire. Ému par la situation, le joueur de l'AS Monaco, Keita Balde, né dans la région de parents sénégalais, a proposé de payer un logement à tous ses saisonniers. Comble de l'histoire, les hôtels de la ville ont tous refusé de les loger, alors même que le footballeur s'était engagé à payer en avance les chambres de 200 saisonniers jusqu'à septembre. Finalement, Balde a trouvé un immeuble entier à louer pour une centaine d'entre eux et espère en trouver un deuxième bientôt. Pour le joueur, son geste était une évidence et personne ne méritait cette indifférence.
Mi scusi, presidente, non è per colpa mia.
En Italie, l'Église catholique est l'une des rares institutions engagées dans l'accueil des réfugiés. Une aide devenue particulièrement cruciale pendant la pandémie, alors que le confinement était total. À Rome, le centre Astalli, géré par le service des Jésuites aux réfugiés, n'a ainsi jamais désempli. Éric Sénanque s'y est rendu pour nous.
Le confinement ayant limité fortement les déplacements, seulement 50% des réfugiés d'ordinaire pris en charge par le centre Astalli ont pu y venir chercher un repas. Une aide néanmoins essentielle pour ces migrants et réfugiés. Le centre a dû rallonger ses horaires d'ouverture pour éviter les files d'attente. Au total, près de 6000 repas ont été distribués pendant le confinement par la cantine du centre qui n'a jamais manqué de volontaires pour aider ces réfugiés. Le père Camillo Ripamonti, le directeur du centre Astalli.
Avec un confinement total, cette catégorie de personnes les plus vulnérables se sont retrouvées sans point de repère. Car les bars ou les restaurants qui pouvaient leur offrir de quoi manger étaient tous fermés. Et ces personnes sont venues manger au centre Astalli.
Outre les repas, les services d'aide aux réfugiés ont également été maintenus, comme la distribution de bons pour faire des courses ou encore du soutien scolaire à distance pour les familles avec enfants. Pour la plupart de ces réfugiés et demandeurs d'asile, cette crise sanitaire a rendu encore plus précaire leur situation.
2019
a été en Italie vit une année difficile où des lois plutôt restrictives ont rendu plus difficile l'accès à une protection internationale et aux procédures d'intégration sur le territoire national. La pandémie n'a fait qu'aggraver la condition des réfugiés, les rendant encore plus vulnérables.
Au-delà de l'aide de première nécessité, le directeur du centre Astali demande plus d'efforts pour qu'une politique courageuse d'intégration et de régularisation soit adoptée en Italie, mais aussi en Europe.
On ne peut plus se permettre d'affronter la question des arrivées comme celle de l'intégration et du travail des migrants, chaque État dans son coin. Je crois que le moment est venu de mettre sur pied une véritable politique migratoire portée par toute l'Union européenne afin que s'ouvre une nouvelle perspective pour les migrants qui arrivent sur notre continent.
L'an passé, 11 000 demandeurs d'asile sont arrivés à Rome, pris en charge par le centre Astali ou d'autres ONG, des migrants qui aspirent à ne plus rester invisibles.
Confrontés à une crise d'une ampleur inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, les différents gouvernements ont tous pris des mesures sanitaires, mais aussi économiques. Comment les Européens jugent-ils l'efficacité de ces décisions et leurs gouvernements respectifs? C'est ce que nous allons voir avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Daniel, bonjour.
Bonjour Léa-Lisa.
Alors à ce stade de la crise, est-ce que les gouvernements européens sont soutenus par leur population?
À lire l'étude Odoxa Dentsu Consulting réalisée durant la première semaine du mois de mai dans les 5 grands pays européens, on note très distinctement 2 groupes de pays. Dans le premier, une majorité des sondés estiment que leur gouvernement s'est montré à la hauteur de la situation. C'est très nettement le cas au Royaume-Uni à 63%, en Allemagne à 60% et moins nettement en Italie à 50%. À l'inverse, seulement 34% des Français et 32% des Espagnols jugent favorablement l'action des pouvoirs publics.
Comment ça s'explique, Daniel?
Ah, certainement pas à cause de la gravité de la situation sanitaire et du nombre de décès. Parmi les 3 pays qui approuvent leur gouvernement, 2 d'entre eux, Royaume-Uni et Italie, comptent le plus grand nombre de morts de toute l'Europe, alors que l'Allemagne en totalise 4 fois moins. Et quand on distingue les points sur lesquels les pouvoirs publics sont évalués, le jugement des Italiens est moins favorable que celui des Allemands, seulement dans 2 domaines, la clarté du discours gouvernemental et les mesures en faveur des hôpitaux. Rien à voir toutefois avec le jugement sévère des Espagnols et surtout des Français, qui sont négatifs à près de 75% sur la clarté du discours et les mesures en faveur de l'hôpital, mais aussi sur le crédit qu'ils accordent à la vérité de la parole des gouvernants.
Alors on imagine que la gestion du stock des masques en France y est pour quelque chose.
Oui, vous avez raison, mais 52% des Britanniques pensent que le gouvernement a dit la vérité et 56% qu'il s'est montré clair, alors même que Boris Johnson a minimisé au début la gravité de l'épidémie et a d'abord jugé inutile le confinement avant de se raviser ensuite. En fait, l'histoire a montré que les Anglais ont toujours fait corps avec leurs dirigeants pendant les grandes crises. Ce n'est certes pas la tradition italienne, mais cette fois, le pays a été si déprécié, voire méprisé par ses voisins quand le virus s'est répandu, que les Italiens ont eu une réaction de solidarité patriotique.
Une situation totalement différente en France, pourquoi ?
En fait, de nombreux sociologues et historiens font l'analyse suivante. Le peuple français manifeste une croyance quasiment religieuse dans les pouvoirs d'un État qui a tôt fait de les décevoir au moindre faux pas. De surcroît, parce qu'ils sacralisent le pouvoir, les Français ont le plus grand mal à s'identifier à leurs dirigeants et donc à tolérer leurs insuffisances.
Peut-on entrevoir les conséquences politiques de cette crise, Daniel ?
Bon, il est encore un peu tôt. On constate en Allemagne une nette remontée de la CDU de la chancelière Merkel. En revanche, le soutien à Boris Johnson et aux conservateurs britanniques s'érode depuis 3 semaines. Mais en Italie et en Espagne, tout comme en France, le soutien aux partis de gouvernement ne semble pas varier. Fait intéressant à noter dans ces 3 pays, les populistes ne profitent pas de la crise. Le Rassemblement national stagne en France et on voit même les Italiens de la Ligue et les Espagnols de Vox perdre sensiblement du terrain dans les sondages.
Merci Daniel Vigneron, votre chronique est à retrouver sur le site myeurope.info. Accent d'Europe était réalisé par Pauline Leduc. Aujourd'hui, demain, vous retrouvez Frédéric Lebel qui vous parlera de l'état de la planète avec la crise du Covid-19. À bientôt.